La conférence de Bandung, 15 au 24 avril 1955, le tiers-mondisme, un espoir évanoui. Bandung, Bandoeng en néerlandais, quand les Pays-Bas colonisaient l'Indonésie, est le nom d'une ville, la ville de Java, où s'est tenue du 18 au 24 avril 1955 une conférence convoquée par la Birmanie, Ceylan, l'Inde, l'Indonésie et le Pakistan. Y participèrent plus de 1000 représentants de 29 États d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, mais aussi une trentaine de mouvements nationalistes anticolonialistes, comme le Front de Libération Nationale d'Algérie, le Néo-Destour de Tunisie ou l'Istiklal du Maroc. Cette ouverte ainsi réunit entre autres Nehru pour l'Inde, Sukarno pour l'Indonésie et Chou En-lai pour la Chine et Nasser pour l'Égypte. En Europe occidentale, cette conférence était regardée avec sympathie par tous ceux qui partageaient les idées naissantes du tiers-mondisme. C'est 3 ans auparavant que l'économiste Alfred Sauvy avait lancé l'expression de « tiers-monde » pour désigner un ensemble de peuples longtemps colonisés qui, comme le tiers-état pendant la Révolution française, souhaitaient devenir « quelque chose » entre guillemets. En 1955, une trentaine de pays asiatiques et africains, qui avaient été des colonies ou des semi-colonies des puissances impérialistes, étaient devenus indépendants. Au lendemain de la conférence de Genève, qui en 1954 venait de mettre fin à la guerre coloniale menée par l'État français en Indochine, ces États déclaraient vouloir accélérer le processus d'indépendance des colonies restantes. Parmi les 29 États présents à Bandung, 15 venaient d'Asie, 9 du Moyen-Orient et seulement 5 d'Afrique, le Ghana, l'Éthiopie, le Libéria, le Soudan et la Libye, car la plus grande partie de ce continent restait sous le joug colonial. Les 5 États organisateurs avaient pris position contre les essais nucléaires, la politique des blocs et le colonialisme. La présence de Nehru, qui avait succédé à Gandhi, rassurait les grandes puissances car elles connaissaient sa modération. Mais le véritable animateur de Bandung fut le premier ministre chinois, Chou En-lai, que les États-Unis présentaient alors comme un communiste fanatique, mais qui prôna une conférence pluraliste et multiethnique. Quand le premier ministre singhalais expliqua qu'on ne pouvait se contenter de dénoncer le colonialisme franco-britannique, mais qu'il fallait aussi se mobiliser contre l'Union soviétique en Europe orientale, il déclencha un tollé. Chou En-lai protesta publiquement, mais dans la coulisse, il réconforta l'orateur conspué en lui disant que, citation, il y avait des choses intéressantes dans son intervention, posant des jalons qui se révéleraient utiles après la rupture sino-soviétique de 1964. Chou En-lai amorça aussi en direction des États-Unis, à propos de Formose, Taïwan aujourd'hui, une manœuvre qui devait se concrétiser au début des années 70, laissant entendre que la question de Taïwan, l'existence de deux Chines, pourrait se régler pourvu que Washington ne s'obstine pas dans son soutien à Chiang Kai-shek. En même temps, il n'afficha qu'un soutien discret au Nord-Vietnam, comme s'il n'était pas pressé que celui-ci récupère le Sud-Vietnam. La conférence peina à trouver une position commune face aux deux blocs, car les uns, Irak, Iran, Japon, Pakistan, Philippines et Turquie, étaient liés aux États-Unis, les autres, Chine, Vietnam du Nord, aux Soviétiques. Tandis qu'un troisième groupe, Inde et Égypte, prétendait à une position de neutralité toute relative, puisque, juste avant de venir, Nasser avait fait emprisonner des militants communistes égyptiens. La conférence condamna en termes vagues la colonisation, l'impérialisme, l'apartheid et appela les pays colonisés à lutter pour leur indépendance, mais en leur proposant de privilégier la négociation à la lutte armée. L'envoyé du quotidien Le Monde, Robert Guillain, ne s'y trompa pas, citation. On écrit déjà en Europe et en Amérique, c'est la conférence de la révolte, révolte asiatique et africaine, révolte anti-blanche. Je crois vraiment que ce n'est pas cela. Voilà une révolte qui, vue de près, n'apparaît pas si farouche, des révoltés plus radoucis qu'on ne pense. Cette fête en brun, jaune et noir, où les visages blancs sont absents, est bien un événement de notre époque, mais c'est précisément une fête, bien davantage qu'un complot. La conférence afro-asiatique assure, par la voix de ses organisateurs, qu'elle ne veut pas être un rassemblement racial, une machine de guerre contre l'Occident. Fin de citation. L'année suivante, Nasser, Nehru et le président yougoslave Tito évoquèrent le non-alignement, souvent associé à Bandung. Il faudra attendre la conférence de Belgrade en 1961 pour officialiser une formule qui prétendait alors offrir une alternative aux deux blocs. 5 ou 10 ans après Bandung, les succès de la révolution cubaine ou de l'indépendance algérienne pouvaient nourrir des illusions tiers-mondistes. 55 ans après, elles se sont évaporées. La grande majorité des États du tiers-monde, y compris ceux qui se présentaient comme de farouches défenseurs de l'indépendance nationale, voire du socialisme, se sont alignés sur l'impérialisme qu'ils prétendaient combattre. À de très rares exceptions, ils n'affichent même plus l'ambition d'apporter un peu de bien-être à leur peuple. Pour la plupart, ils ont démantelé ou achèvent de démanteler ce qui était étatisé dans leur économie, espérant ainsi s'intégrer au sein de l'économie mondiale comme fournisseur de matières premières ou comme sous-traitant des multinationales, et tant pis si leur population paye au prix fort ce réalignement par un surcroît d'exploitation. Jacques Fontenoy.